Excellent mardi, mesdames, messieurs. Bienvenue aux amateurs de sport, édition du 21 mai. J'espère que vous allez bien. Nous avons une émission fort chargée pour vous. Dans un premier temps, on aura la chance d'aller faire un tour du côté de Toronto. Les Raptors qui affrontent les Bucks ce soir, c'est le match numéro 4. Vous savez, dernier match a été gagné en deuxième prolongation. Mathieu Jolivet sera avec nous. Décès d'un monument en F1, Niki Lauda, qui s'éteint à l'âge de 70 ans. En direct de l'Allemagne, Philippe Lagu nous en parlera. Jour 2 du camp d'entraînement, Bruno Eppel est là du côté des Alouettes. Est-ce qu'il y a un sourire malgré les rumeurs de vente, les rumeurs qui sont persistante. On aura la chance de parler avec Danny Dubé du duel où les Sharks pourraient voir peut-être leur saison se terminer ce soir face aux Blues de Saint-Louis. On parlera de Patrick Roy aussi à Ottawa. C'est des rumeurs. Est-ce que c'est un bon coup pour les Sénateurs? Philippe Quentin sera avec nous. On aura la chance de parler également à l'entraîneur des Huskies de Rouyn-Noranda qui va affronter demain les Moussettes d'Halifax. Mario Pouliot sera avec nous un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, c'est une soirée fort spéciale. Ça se passe du côté du Grand Quai de Montréal. On rend hommage à la fondation du 50e anniversaire en fait des Expos de Montréal. On va honorer multitude de personnalités qui sont sur place. Charles Brofman, père, lui qui était là, cofondateur, copropriétaire des Expos à l'époque. André Dawson, Steve Rogers, Claude Raymond. Multitude de gens impliqués entourant les Expos de Montréal et notre collègue Jérémy Filosa est sur place. Il est avec nous. Salut Jérémy.
Salut les gars.
Bon, Jérémy, dans un premier temps, raconte-nous, c'est une grande célébration de l'histoire des Expos de Montréal aujourd'hui du côté du Vieux-Port de Montréal.
Ouais, en tout cas, si du côté de l'Impact de Montréal, on cherche le Québec Inc., là, je l'ai trouvé, il est ici. Ils sont tous ici, en fin de compte. Vraiment, une belle brochette de tout ce qui enrobe, premièrement, l'histoire des Expos, des anciens joueurs, André Dawson, Bill Lee, Steve Rogers. Philippe, malheureusement, n'a pas pu y être. Il a opéré ce week-end, mais aussi plusieurs personnalités des affaires de Montréal qui sont ici pour cette belle soirée où on rend hommage, justement, comme tu viens de le mentionner, à Charles Brofman. Charles Brofman, le père qui avait amené les Expos à Montréal pour la première fois en 1969. Bon, tout le travail a commencé en 1968, bien sûr. Et il est ici aujourd'hui. Il a parlé de quelques-uns de ses plus beaux souvenirs, dont je vais vous faire entendre dans quelques instants. Mais donc, écoute, c'est une soirée qui va se terminer très tardivement ici ce soir, comme on dit. Le champagne coule à flot, puis ça paraît que Steven voulait organiser cette soirée-là pour son père, parce qu'il n'a pas pu être ici quand les Blue Jays sont venus. Et donc, on a préparé tout cela. Il est allé signer le livre d'honneur à l'hôtel de ville un peu plus tôt aujourd'hui. La mairesse Valérie Plante est présente ici. Pierre Boivin, qui est à la tête de Claridge aux côtés de Steven Brofman, est ici. Alain Bouchard de Couche-Tard est ici. On espère de pouvoir lui parler parce que lui, c'en est un qui n'a toujours pas parlé publiquement là, dans son implication dans le retour possible des Expos de Montréal. Donc, ça ressemble à cela là, au moment où on se parle.
Bien, Jérémy, peut-être expliquer aux gens là, qu'on va se parler en deux temps. Dans un premier temps, on va célébrer justement l'histoire et rendre hommage à Charles Brofman, grand fondateur des Expos de Montréal. Mais un peu plus tard, aux alentours de 19h15-20, tu reviendras nous parler et on espère que tu auras eu la chance de parler à ces grandes personnalités du milieu corporatif qui soutiennent présentement Steven Brofman. Dans un premier temps, est-ce que tu as eu la chance de croiser le paternel Brofman, celui qui était là au début de la fondation des Expos?
Oui, absolument. Grand sourire de retrouver des anciens de son équipe. Dave Van Horn, l'ancien descripteur des matchs des Expos, qui est maintenant descripteur des matchs des Marlins, a pris une journée de congé parce que les Marlins jouent contre les Tigers aujourd'hui pour se rendre ici. On a même invité Rob Manfred, le commissaire, parce que Rob Manfred et Charles Brofman ont une relation. Ils se connaissent. Malheureusement, Rob Manfred n'a pas pu être présent. Steven Brofman nous a dit qu'il l'avait invité. Il a dit que ça serait vraiment, mon père apprécierait vraiment que tu puisses venir finalement. Ça n'a pas été possible. Mais je vous laisse écouter tout de suite Charles Brofman sur ses plus beaux souvenirs de l'histoire des Expos de Montréal.
First day in New York with the Marine Forester and the Collège Militaire Royal and 40,000 Americans standing up for a national anthem for O Canada. Second was Jerry Park opening day. And from then on, maybe the All-Star game when it was played in Montreal.
Yes.
And then the day we beat Philadelphia at Philadelphia,
yes,
in that playoff game,
yes,
and went on to Los Angeles, and then there was one of the worst days.
Alors, il raconte ses quatre plus beaux moments. Le match d'ouverture à New York au Shea Stadium. Il dit où 40 000 personnes se sont levées pour le Haut-Canada. Et ensuite, le match d'ouverture au Parc Jarry. Il a aussi parlé du match des Étoiles au début des années 80, mais aussi cette fameuse série remportée par les Expos face aux Phillies en 1981. Il a dit que ça a été le plus beau moment de l'histoire de la franchise, suivi du pire moment, bien sûr, le circuit de Rick Monday, bien sûr.
Oui, il y a des joueurs québécois qui ont marqué l'histoire des Expos de Montréal. Claude Raymond en est un. Il est sur place, a eu la chance de le croiser?
Oui, j'ai voulu lui poser la question. Qu'est-ce qui l'a remarqué de la business et de l'organisation des Expos de Montréal lorsqu'il est arrivé en 1969, cette première année de l'histoire des Expos? On l'écoute.
C'était de la classe, de la grande classe, parce que moi, quand je suis arrivé des Braves d'Atlanta, je suis arrivé ici le 19 août 69, je me suis aperçu tout de suite que quand on allait sur la route, c'était des hôtels de première classe, les avions étaient des avions nolisés. Monsieur Bronfman, à chaque automne, il invitait les joueurs et les instructeurs qui étaient ici, vers la fin de saison, chez eux. Il faisait un party chez eux. Et à tous les mois de décembre, il faisait, au Ritz-Carlton ou au Reine-Élisabeth, il faisait un gros party pour les médias, pour les fans, puis tout ça. C'était un monsieur qui aimait aller première classe, puis il a toujours été comme ça.
Claude Raymond, Jérémy, toujours aussi solide malgré son âge qui avance. Évidemment, on le sait, Claude Raymond a été un joueur marquant de l'histoire des Expos de Montréal, mais semble extrêmement solide et allumé sur le projet du retour des Expos.
Oui, c'est certain. Écoute, Claude Raymond, il suit tout ce qui se passe dans le dossier possible du retour des Expos et il espère que ça puisse se faire très bientôt. Il suit encore l'actualité du baseball majeur de très près. D'ailleurs, j'ai jasé de baseball avec lui, puis il sait exactement tout ce qui se passe, dans quelle division, avec quelle équipe. Donc, vraiment très allumé, encore une fois, Claude Raymond, ici aujourd'hui. Il y a Denis Boucher aussi qui s'est déplacé. Derek Aucoin, donc les Québécois qui ont joué avec les Expos, sont ici. Et un autre que j'ai croisé, c'est Richard Morancy. Richard Morancy qui a été mon patron, je peux le dire, lorsque je suis arrivé chez les Expos en 1999. Il était encore là comme VP chez les Expos de Montréal. Et il est ici aujourd'hui. On n'a pas la chance de lui parler trop souvent. Mais lui, il s'en allait un peu dans la même lignée que Claude Raymond par rapport à la classe de M. Charles Bronfman et le fait que, malgré le fait que c'était les petits Expos de Montréal, il ne se laissait pas intimider par personne. On l'écoute.
C'est bien évident que Charles Bronfman, en peu de temps, est devenu un gars très reconnu à travers le baseball majeur, les grands gourous, là. Il était très respecté, là, tu sais, là. Tu te souviens, dans le temps des Yankees, puis les Dodgers, puis les O'Malley, puis notre chum dont le nom m'échappe, là.
Steinbrenner.
Steinbrenner, c'est ça. Alors, tout ça, là, ces gens-là, là, ils poussaient pas M. Charles, là, parce que tout le monde l'appelait M. Charles. Et là, avec la venue de son fils, qui est à Montréal, qui embarque là-dedans, ça donne un bon coup de main. Là. Parce que je peux te dire, c'est ce qui fait la différence.
C'est ce qui fait en sorte qu'on a de l'espoir dans le fond.
T'as de l'espoir parce que le baseball majeur, c'est sûr que si le nom de Bronfman est là, c'est plus pareil, là. Ça négocie plus pareil.
Alors, Jérémy, ce que j'entends de la part de Richard Morancy, qui était vice-président marketing à l'époque chez les Expos de Montréal, c'est que quand le nom de Bronfman est associé au projet de retour potentiel du baseball majeur à Montréal, ça donne la crédibilité, c'est ce que j'entends.
Ouais, absolument. Puis d'ailleurs, j'en ai parlé à Charles tout à l'heure et j'ai posé la question, quels sont vos rapports avec M. Manfred? Tu sais, il m'a confirmé qu'il parle au commissaire. Malgré son âge, malgré le fait qu'il n'est plus, lui, directement impliqué, il peut lever le téléphone et appeler Rob Manfred pour lui donner son opinion sur le sujet, sur le travail de son fils et tout cela. D'ailleurs, je vais vous faire entendre dans notre prochain segment un peu plus tard. Selon Charles Bronfman, quelles sont les chances de voir son fils réussir le tour de force avec toutes les informations que lui a en main? Il n'a pas voulu m'en donner plus parce qu'il m'a dit, regarde, référez-vous à mon fils, il va pouvoir vous en donner plus. Donc, il n'a pas voulu rentrer dans les détails.
Mais là, Jérémy, ne nous fais pas patienter. Dis-nous, est-ce que le paternel croit au succès de son fils?
Oui, il croit. Puis il croit en tabarouette parce que vous allez l'entendre, là. Il n'utilise pas des mots. Il s'en va droit au but, comme on dit, dans son propos. Vous allez l'entendre. D'ailleurs, je vais vous faire entendre ici dans une demi-heure où nous en sommes rendus dans le fameux dossier de retour des Expos. Parce que est-ce que des choses ont avancé? Oui, certaines choses ont avancé depuis la dernière fois qu'on s'est parlé lorsque les Blue Jays ont disputé des matchs ici il y a à peu près un mois et demi. Donc, il y a des choses qui avancent. C'est peut-être pas aussi rapide que tout le monde voudrait que ce soit, mais il y a des petits bouts d'informations qu'on a obtenus aujourd'hui qui étaient des bouts d'informations qu'on n'avait pas il y a un mois et demi. Donc ça, c'est important de pouvoir la partager avec nos auditeurs. Si tu veux, je peux même vous le raconter tout de suite.
Oui, oui, mais écoute, Jérémy, ne nous fais pas attendre. On veut entendre okay. Tout ça, là.
Bon, la première chose que je peux vous confirmer, c'est qu'il y a une entente entre le groupe de Steven Brossman et le groupe de Devimco pour le développement du terrain. La dernière fois qu'on s'est parlé, M. Serge Goulet, président de Devimco, avait dit sur nos ondes, nous pensons qu'en l'espace de quelques semaines, nous allons pouvoir avoir une entente avec les gens de Steven Brossman, Claridge, dans le but justement de savoir qui va faire quoi dans ce développement-là, combien d'argent on doit mettre chacun, combien d'argent on va débourser pour les constructions et tout ça. Donc, on a une entente entre les deux groupes. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle. L'autre bonne nouvelle qu'on a appris aujourd'hui, en fait, c'est pas une bonne nouvelle, mais c'est une nouvelle, c'est que c'est Devimco qui va acheter le terrain et non Bronfman et non Claridge. C'est Devimco qui est présentement en négociation avec Canada Land, donc le gouvernement fédéral, pour mettre la main sur le fameux terrain au Bassin-Peel. Donc, ça passera pas par les mains de Bronfman nécessairement, ça va passer par Devimco. Donc, ça, c'est une information qu'on n'avait pas non plus là, il y a de cela quelques semaines.
Jérémy, si je veux bien comprendre, est-ce que ça veut dire que le groupe de Bronfman serait locataire de Devimco?
Bonne question. Je pourrais pas le dire locataire, mais clairement, l'acquisition des terrains, comme ça a été le cas pour plusieurs autres terrains que Devimco a acquis dans la région de Griffintown, dans le secteur de Griffintown. Donc, on s'est probablement entendu entre les deux groupes que ce serait plus logique si Devimco achetait le terrain et non Bronfman et son groupe ou même Claridge. Je ne sais pas si c'est pour des questions de logistique, pour des questions simplement parce que c'est plus facile de procéder de cette façon-là, mais donc... c'est vraiment eux qui vont faire l'acquisition des terrains. Je présume que c'est parce que dans un cas que ça fonctionne pas, comprenez? Dans un cas qu'il n'y en a pas de stade, ben Devimco va vouloir quand même développer ce secteur-là avec d'autres choses qu'un stade, des condos, des tout ça.
On planifie un plan B au cas où, si jamais le projet n'arrive pas à terme. Jérémy, le temps file rapidement. Il nous reste à peine une minute. Je veux savoir une chose. On a parlé du soutien corporatif à Steven Brossman. Tu nous as fait état, entre autres, de Bouchard, des Couche-Tard qui est là. Ouais. Donc, lui est là. Est-ce que tu en as vu d'autres qui sont là pour soutenir, d'un point de vue corporatif, Steven Brossman?
Ouais, ben il y a Tony Loffredo, qui est, je crois que c'est le président, là, je voudrais pas me tromper, je crois que c'est la Banque de Montréal, pas certain, mais il est ici, il est présent. Pour les autres, écoute, j'étais tellement en train de travailler, parler à un peu tout le monde que je les ai pas tous repérés, mais clairement, il y en a plusieurs ici, de Ernst & Young aussi. Donc, on sait que c'est une entreprise qui travaille très serré avec le groupe de Bronfman, et on nous a dit qu'on travaille aussi sur des croquis de stade qu'on va pouvoir nous présenter, on l'espère, bientôt. Et il y aura des consultations très importantes qui vont se faire à l'automne prochain avec la Ville de Montréal pour savoir comment on veut placer tout cela dans le secteur de Griffintown.
Parfait, Jérémy, on se reparle aux alentours de 19h15, évidemment, avec d'autres entrevues, d'autres entretiens avec des joueurs importants qui sont là pour le retour potentiel des Expos de Montréal et du baseball majeur à Montréal. Merci beaucoup, Jérémy Filosa.
Excellent. À tout à l'heure.
Voilà, c'était Jérémy Filosa qui nous parlait en direct du Grand Quai du Port de Montréal pour rendre hommage aux 50 ans d'histoire des Expos. On s'arrête quelques instants. Demain, Huskies, Moussette Zalifax, tout un duel, l'entraîneur des Huskies, Mario Pouliot, est avec nous au retour.